voulais juste dire que j'ai, en fait, c'est un peu moi qui ai forcé la main à la vie. Moi, le premier contact que j'ai eu avec Nadège, c'est par l'intermédiaire d'un mémoire qu'elle avait fait sur c'est une mémoire de maîtrise, je ne sais plus comment l'intituler, ni pourquoi il avait été fait. Mémoire de maîtrise de magistrat, comme ça.
Non, en fait, c'était effectivement un mémoire de maîtrise à l'époque où j'étais en fac de droit, mais ça remonte à il y a pas mal de temps. Ça n'avait rien à voir avec ma profession actuelle, hein. C'était juste pour clôturer mes 4 ans de fac en droit. C'était un mémoire que j'ai ici d'ailleurs, mais qui est périmé puisque la législation a pas mal évolué depuis. Et la réflexion sur le sujet aussi, j'avais intitulé ça le spécisme dans les relations entre l'homme et l'animal au regard du droit. Et ça remonte à 94 quand même.
Nadia, j'ai dit qu'elle voulait bien venir aux estivales, je pense que c'était vraiment important parce que c'est toujours des questions qui reviennent et donc on est un peu ignorant la question juridique. On avait déjà parlé l'année dernière aux estivales en fait. On avait déjà parlé de ton mémoire et il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés pour bosser ce sujet, travailler ce sujet, mais pas grand monde de compétents pour pouvoir nous aider. Pour garder les deux pieds sur terre par rapport à ce qu'il pouvait faire sur le déjà vu, parce qu'on s'emporte vite en quoi faire ça. Et voilà, et comme j'ai plus de mémoire, et que et par contre pour venir au festival, je pense que c'était important de venir, et du coup, voilà, j'ai demandé assez tardivement si on pouvait faire quelque chose sur les droits des animaux, donc j'ai un peu l'impression d'avoir porté la main, mais bon, je pense qu'aussi on est assez ignorant sur la chose, sans que ce soit dans les détails, il me semble que si ça fait longtemps que ça, il me semble que ce sera déjà très enrichissant d'avoir des éléments de droit sur la question. Et puis je pense que le jeu des questions-réponses, il faudra que même si j'ai si, pas eu le temps de travailler à la présentation de tout ça, et par ma faute, ne pas avoir laissé le temps, je pense que le jeu des questions-réponses sera assez enrichissant, il y aura du coup.
La commande, si j'ai bien compris, c'est les animaux et le droit, donc c'est très vaste en effet. Donc ce que je vous propose, c'est, en réfléchissant comme ça récemment, deux pistes de réflexion dans un premier temps. On pourrait élargir par la suite un débat sur des thèmes peut-être plus précis, je sais pas, à la demande. Hein. Il me semble intéressant d'explorer un petit peu le problème du statut juridique de l'animal et puis, dans un deuxième temps, éventuellement, faire un point sur tout ce qu'on peut attendre de l'instrument que représente le droit pour faire progresser la cause animale. Sur le statut juridique de l'animal, c'est assez théorique. Hein. Pour m'arrêter, éventuellement, si c'est trop abstrait ou technique, mais il faut savoir que la théorie du sujet de droit, de la personnalité juridique est l'un des éléments de base de la technique juridique dès lors que on a fait le choix d'analyser la plupart des rapports sociaux en termes de droit, d'où l'intérêt donc d'accorder le statut de sujet de droit à l'animal. Si on parcourt la littérature juridique sur le sujet, on s'aperçoit que les principaux motifs qui reviennent le plus souvent pour s'opposer au principe de la personnalité juridique de l'animal, c'est pas forcément dans l'ordre, mais des motifs métaphysiques ou d'ordre religieux, en considérant que Seul le critère de l'humanité est un critère pertinent pour conférer la capacité juridique pour pouvoir acquérir des droits. Et le critère de l'intelligence et puis le critère de la volonté. C'est celui qui a été peut-être le plus fouillé. ce critère consistant à affirmer que on ne peut devenir sujet de droit qu'à partir du moment où on est capable d'exprimer une volonté. C'est une théorie juridique qui a prospéré pendant très longtemps et qui s'est opposée par la suite. La théorie du sujet intérêt étant venue ayant été élaborée pour critiquer cette théorie du sujet volonté. Ces deux conceptions étant les deux principales notions de sur les deux principales conceptions sur le sujet de droit, sur la théorie du sujet de droit. La théorie du sujet volonté donc part du principe que seuls les individus capables d'exprimer une volonté peuvent prétendre à bénéficier de droits. On s'est aperçu assez vite qu'au fur et à mesure que les règles de droit évoluaient, on a conféré certains droits à des personnes qui n'étaient pas capables d'exprimer une volonté. Ça a été le cas pour les enfants assez récemment, ça a été le cas pour des individus qui ne bénéficiaient d'aucun droit pendant longtemps et qui ont fini par en acquérir assez récemment également les déficients intellectuels, les personnes, les handicapés physiques qui ne pouvaient pas non plus s'exprimer. Donc petit à petit, on a fini par accorder des droits à ces personnes et il a fallu revoir un petit peu la conception initiale. Ça s'est passé, on peut situer ça au courant du 19e siècle, et là est apparue cette théorie du sujet intérêt qui considère que les droits sont des intérêts juridiquement protégés, que un droit constitue l'expression d'un intérêt que le législateur a considéré comme méritant d'être protégé. Alors ça, c'est un juriste allemand qui s'est illustré en premier lieu avec cette théorie, et puis elle a prospéré. En France, au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, cette fois-ci, de Maugue a décidé d'aller même encore au-delà, puisque il a été l'un des premiers à utiliser cette théorie pour considérer que les animaux devaient prétendre également à la capacité juridique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? On peut dire que la première loi tendant à conférer quelques droits aux animaux, en tout cas à protéger les animaux en France, on considère que c'est la loi Gramont, une loi Gramont de 1850, mais qui était extrêmement limitée, en ce sens que seuls étaient réprimés les mauvais traitements infligés abusivement et publiquement sur des animaux domestiques, donc ça restreint quand même beaucoup la protection. En tout cas, c'est la première qui accordait des droits aux animaux en tant qu'individu et non pas en tant que propriété d'un être humain. Alors aujourd'hui, on a une pléthore de textes, j'ai essayé d'en faire un petit peu le tour, une pléthore de textes pas très cohérent. La seule ligne qu'on peut en tirer, c'est que globalement sont protégés les animaux de compagnie, et encore dans certaines limites. Je pense par exemple, on protège essentiellement les animaux de compagnie, mais à condition que ça ne porte pas atteinte à ce qu'on considère comme nos droits. Donc ça n'empêchera pas, par exemple, d'éradiquer, puisque c'était l'objectif de cette loi, d'éradiquer les animaux qu'on considère comme dangereux, les chiens classés en première, deuxième catégorie en 99, et qui aboutit réellement à l'éradication de ces espèces de chiens, de ces races de chiens. Alors, les textes généraux, tout d'abord, eh bien, ils sont dans le code pénal. Le code pénal réprime les actes de cruauté ou les sévices graves infligés aux animaux domestiques ou apprivoisés. C'est considéré donc comme un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et, alors en euros, je ne sais plus, c'était 200 000 francs d'amende. Donc ça, c'est un maximum. Plus éventuellement, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir éventuellement, pour une durée indéterminée, un animal de compagnie. Alors, bien entendu, ça exclut expressément tous les autres animaux, hein, tous ceux qui sont, tous les animaux qui ne sont pas domestiques ou apprivoisés. C'est-à-dire que on peut faire ce qu'on veut, les chasseurs peuvent continuer à les chasser. Ça exclut également les animaux d'élevage dans la mesure où d'autres textes permettent d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis ça exclut également ça permet de continuer les combats d'animaux qui sont exclus de cette disposition. On a également un texte qui réprime les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques ou apprivoisés. Alors là, ce n'est plus un délit, c'est une contravention de quatrième classe, punie de 750 € d'amende maximum, et à titre de peine complémentaire, la confiscation de l'animal. Sachant que la personne peut en reprendre un autre si elle le souhaite à l'avenir. Une disposition intéressante que j'ai remarquée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, la sanction est considérablement majorée lorsqu'elle a été commise par un éleveur. L'infraction devient un délit, on passe à 6 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Le montant en euros. Alors, l'intérêt principal de la distinction contravention-délit, c'est que les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel, les contraventions devant le tribunal de police. La procédure est un petit peu différente. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, mais ça a quand même un intérêt en dehors du montant de la sanction. Est également réprimé le fait de donner inutilement la mort à un animal. Là, c'est une contravention de cinquième classe, 1 500 € d'amende maximum. Une disposition que j'ai jamais vue utilisée encore, mais qui est assez intéressante, je trouve, symboliquement, le fait d'infliger par maladresse, imprudence, inattention, des blessures ou la mort d'un animal. Là, c'est une contravention de troisième classe, donc là, c'est 3 000 francs d'amende maximum. Mais je trouve que symboliquement, c'est intéressant, on se rapproche de plus en plus des infractions dont les humains sont victimes. Elle n'est pas utilisée, mais elle existe au moins, et elle mérite d'exister. Elle pourrait être exploitée davantage si des plaintes étaient déposées, si on s'y intéressait peut-être un peu plus. Voilà pour les textes généraux dans le code pénal. On a des textes codifiés dans différents codes, le code rural, le code civil. On en parlait un petit peu tout à l'heure, une loi de 76, une loi qui n'avait pas grand-chose à voir avec la protection de l'animal au départ, c'est une loi relative à la protection de la nature qui est intéressante dans le sens où elle affirme le caractère d'être sensible de tous les animaux. On n'en a pas tiré tellement les conséquences, mais c'est quand même, là encore symboliquement, ça a une importance. Et puis on a toute une série de textes non codifiés qui vont concerner l'expérimentation sur l'animal, qui vont concerner l'élevage, le transport, l'abattage. Je vais peut-être revenir un petit peu dessus tout à l'heure, mais c'est vrai que les avancées sont vraiment dérisoires par rapport à ce qui devrait exister si on se basait sur le texte de base, qui est quand même un arrêté de 82 qui pose pour principe qu'on doit respecter les besoins physiologiques de l'animal. Et malgré ce texte qui est quand même intéressant au départ, eh bien on a toute une série de textes par la suite qui restreignent considérablement la portée de cet arrêté en posant des règles qui sont certainement très... qui ont certainement amélioré le sort des animaux, puisque de toute façon, si elles n'existaient pas, je pense cet arrêté de 82 ne serait pas du tout appliqué, hein, ce sens qui est beaucoup trop général peut-être pour que des poursuites soient engagées sérieusement et qu'elles aboutissent, mais en même temps ils restreignent énormément les normes de bien-être et de confort qu'on pourrait attendre. Donc sur le statut juridique de l'animal aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire, quelque chose de pas très cohérent en fait au coup par coup. On s'aperçoit qu'en pratique, on applique quand même régulièrement les textes qui concernent les actes de cruauté et les mauvais traitements sur les animaux domestiques, mais on peut se permettre encore à peu près n'importe quoi avec les autres animaux. Je pourrais détailler un petit peu la réglementation tout à l'heure, mais à mon avis, on ne peut pas réellement considérer que la personnalité juridique de l'animal est acquise dans la mesure où ces textes sont très ponctuels, hein, ces textes protecteurs sont très ponctuels et pas suffisamment appliqués. Et une petite... ça me semble assez anecdotique, mais ça a quand même son intérêt. Dans le code civil, on fait... Là, c'est très théorique, hein, mais on fait une distinction entre les biens meubles, les biens immeubles, et entre les deux, il y a les meubles par destination. Et la définition que donnait le Code civil était assez, assez édifiante. Je peux vous donner la définition avant la réforme de 99 et après, après qu'on a réussi à introduire une espèce d'objets un peu à part entre les meubles, les immeubles, les meubles par destination. On a quand même rajouté l'animal de façon un peu plus respectueuse. Donc avant, la définition du meuble par nature, c'était son meuble par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées. Depuis, c'est devenu son meuble par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, etc. Donc une petite modification qui, on est toujours dans le domaine du symbolique, mais qui montre qu'on a quand même pris en compte un individu un petit peu à part par rapport aux meubles et aux immeubles. On a aussi la définition de l'immeuble par destination. Avant, c'était les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds. Avec comme exemple, toute une liste d'exemples dans cet article, les animaux attachés à la culture, les semences, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les pressoirs, les chaudières, les alambics, etc. Et puis maintenant, c'est devenu les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service. Donc, des petites avancées comme ça, mais rien de très cohérent et... Et en pratique, bon, j'ai tendance à rester encore assez pessimiste. Alors, pour passer à la deuxième idée que je souhaitais développer, malgré tout, je continue à croire quand même en cet instrument que représente le droit, parce que... il y a certainement moyen de l'utiliser pour faire progresser en sens la cause qui nous intéresse, étant bien, tout en ayant en mémoire que le droit n'a pas d'autre prétention que d'être un simple régulateur des relations sociales et que bien souvent il ne fait qu'entériner une évolution qui est déjà acquise. Il n'a aucune prétention éthique, de justice ou de morale. Ça entérine une évolution des rapports tels que le législateur a décidé de les figer et ensuite il faut essayer de faire en sorte que cette réglementation soit respectée. On l'a déjà un petit peu évoqué hier soir au sujet de l'objection de conscience sur l'expérimentation animale. C'est vrai que je crois qu'il faut essayer de faire avancer peut-être un petit peu les choses en amont et ensuite, une fois qu'on a réussi à expérimenter à faire quelques expériences, mais essayer de les faire entériner, de les généraliser. Ça concerne je crois l'objection de conscience à l'expérimentation animale qu'on pourrait tenter d'introduire dans certaines universités pour ensuite en arriver à un projet de loi comme ça s'est déjà produit. Ça concerne par exemple, on a pas mal parlé également du végétarisme, l'introduction de repas végétariens dans les écoles. Je pense que là encore, il y a peut-être moyen de le faire progresser de façon officieuse et quitte à l'entériner ensuite. Un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est un cas un peu similaire. Dans tous les établissements pénitentiaires que j'ai visités, le menu végétarien est acquis. À chaque fois, j'ai pu vérifier, j'ai toujours demandé à vérifier que les végétariens avaient leur menu au même titre que les personnes se réclamant de telle ou telle obédience. Bon, je ne veux pas dire que c'est le cas dans toutes les prisons, mais dans toutes celles que j'ai eu l'occasion de visiter, en tout cas. Et je ne connais aucune réglementation qui l'impose. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à à faire accepter, à faire admettre petit à petit. Et on peut peut-être se servir de cet exemple pour l'introduire dans d'autres établissements. Alors, un bémol quand même par rapport à ce que je viens de dire, c'est que notre droit s'inscrit depuis quelques années maintenant dans une dimension plus européenne et même mondiale, et que grâce aux avancées qui ont déjà été réalisées dans d'autres pays européens, eh bien, on a réussi à faire progresser un petit peu notre législation. J'ai eu la chance de pouvoir participer au débat à l'Eurogroupe qui se considère un peu comme c'est une instance de réflexion qui se réunit 2-3 fois par an à Bruxelles. Et parmi ses membres, eh bien, différentes associations de pratiquement tous les pays d'Europe sont représentées. Et puis, ils participent des salariés à plein temps qui vont jouer un rôle de lobbyistes au même titre que les lobbyistes d'autres représentants d'autres intérêts, notamment ceux de groupes agroalimentaires ou d'industrie pharmaceutique, vont réussir à négocier avec le législateur européen des améliorations qu'ensuite la France sera obligée de prendre en compte sous peine de sanctions au niveau communautaire. Alors ça se concrétise, ça a été pas mal médiatisé, pour tout ce qui concerne la chasse, la France s'est pas mal illustrée, malheureusement, dans ce domaine, a bien dû réfléchir et appliquer les textes que les autres pays européens avaient déjà mis en vigueur depuis longtemps. Ça concerne l'élevage. Je crois que c'est un gros enjeu actuellement, puisque la France est vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays qui ont nettement progressé et qui arrivent à imposer une réglementation. C'est pas dans un but philanthropique, bien entendu, les enjeux sont économiques, mais on arrive quand même à faire progresser un petit peu les choses dans ce domaine. Et pour rester dans la dimension économique, c'est vrai qu'il faut aussi tenir compte des contraintes de l'OMC et savoir, j'ai pu le constater au moment des discussions sur l'expérimentation en matière de cosmétiques, c'est vrai que les enjeux sont très très larges maintenant. Il faut tenir compte des contraintes de l'Organisation mondiale du commerce et donc des répercussions que pourraient avoir les sanctions économiques des États-Unis si on oblige, par exemple, si on interdit, par exemple, l'importation de produits testés sur les animaux, etc. L'avantage de l'internationalisation et puis en même temps cet inconvénient. Mais je crois que on a vraiment beaucoup à recevoir des pays scandinaves, notamment de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Belgique, qui sont bien en avance par rapport à la France, par rapport à l'Espagne aussi, qui n'est pas beaucoup plus avancée que nous dans ce domaine. Alors, je peux peut-être parcourir rapidement l'état du droit en matière de protection des animaux. C'est réellement dérisoire. Hein. Si on prend l'exemple de l'élevage, on a cet arrêté de 82 qui a été modifié en 82. C'est le texte de base. Et puis, donc, ce texte est très bien, plein de d'avancées. Donc, interdiction de priver les animaux de nourriture. En gros, il faut respecter leurs besoins physiologiques. Et puis, on a par la suite différents arrêtés qui ont été pris, là encore, sous l'impulsion, sous la contrainte même de sanctions communautaires. On a un arrêté qui concerne la protection des poules pondeuses, un qui concerne la protection des veaux et un autre la protection des porcs. C'est les seuls que j'ai pu lister. Plus, c'est anecdotique, mais malheureusement, ça existe, des arrêtés qui concernent l'élevage des bisons et l'élevage des autruches. en tout cas, les trois principaux sont ceux qui concernent les poules pondeuses, les porcs et les veaux. Et si on s'y penche un petit peu, ben, on s'aperçoit que... Alors, jusqu'en février 2002, date du dernier arrêté, les poules pondeuses devaient disposer dans leur cage d'un espace d'au moins 450 cm². Ça ne doit pas faire beaucoup. Actuellement, l'arrêté du 2 février 2002 impose 750 cm², donc on a un petit peu augmenté. Mais il autorise toujours les pointages du bec. L'arrêté qui concerne la protection des porcs, on a vu quelques images assez fortes tout à l'heure, là encore c'est ridicule. On nous dit qu'il faut nourrir les porcs tous les jours. Les mutilations sont toujours autorisées hein, dans une certaine mesure, mais c'est très large. Alors on a le droit de je sais pas ce que c'est, je pense que c'est ce qu'on voyait faire tout à l'heure, la réduction uniforme des coins des porcelets par une technique appropriée telle que le meulage au cours des 7 jours suivant la naissance, donc ça doit être les dents. La section partielle de la queue est autorisée, la castration des porcs mâles par d'autres moyens que le déchirement des tissus, mais j'ai pas vu qu'on disait d'anesthésier. Et puis la pose d'anneaux dans le nez, autorisée dans les systèmes d'élevage en plein air. Donc une réglementation très minimaliste. S'agissant des veaux, là c'est encore pire puisque le texte est plus ancien, il n'a pas encore été abrogé, il date de 94. Celui qui concerne les porcs, il y en a eu un premier en 94 et puis un second en février cette année qui a un petit peu amélioré les choses puisque avant, donc on pouvait, si j'ai bien compris, sectionner les dents, maintenant il faut les meuler, mais bon, c'est pas beaucoup plus civilisé. On pouvait également sectionner les oreilles à l'époque, là je ne l'ai pas revu. S'agissant des veaux, on nous dit que la longueur de la cage est au moins égale à la longueur du veau multipliée par 1,1. Voilà. C'est des exemples, mais bon, les transports, c'est un peu du même acabit. Hein,
Sur les poissons, il y a un élevage.
J'ai rien vu sur l'élevage des poissons, mais la réglementation concernant la pêche est là aussi énorme. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de textes. Hein. J'en ai répertorié pas mal aussi. Mais rien sur les piscicultures. Non.
Et le décret de 82, il s'applique aux poissons ou pas?
Je vois pas d'exclusion. Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments. Ah non, les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure, ou à d'autres fins agricoles, ainsi que les équidés domestiques. Donc, à priori, les animaux. Oui, il y a des chances. On pourrait vérifier, mais il y a des chances.
Sur les pêchers.
Non. Donc, a priori, c'est le droit commun, l'arrêté de 82. Qui n'est pas appliqué, qui n'est pas plus appliqué, on en parlait aussi récemment, pour les s'agissant des, et là c'est flagrant, s'agissant des oies, du gavage des oies, là l'arrêté est manifestement violé et en toute impunité.
Alors que dans d'autres pays, il y a des arrêtés contre le gavage des oies, mais...
Je suis même pas sûre qu'ils se pratiquent
à l'étranger. Ah, oui.
C'est une spécificité française, je sais qu'en en France on s'était aussi pas mal illustré avec les veaux de lait. C'était des veaux qu'on anémiait volontairement, on les privait de fer notamment, et ils vivaient dans d'atroces souffrances jusqu'à leur exécution. Ça maintenant, grâce à cet arrêté, ça va pas très loin, hein, mais au moins on est obligé de leur donner une alimentation un peu plus équilibrée. Ils ont droit à, s'ils mesurent 1 mètre de long, ils ont droit à 1,10 m dans la cage, mais on peut plus les priver de fer comme on le faisait. Ça ne concerne pas non plus les bovins adultes. Hein. J'ai rien vu les concernant. Donc normalement, c'est toujours cet arrêté de 80.
J'ai déjà vu des chiffres sur les pêcheurs, mais pas les documents de défense animale. En fait. Donc c'est la pratique qui a l'espace des pêcheurs.
Surface au sol, par exemple.
Les hangars, on dit qu'il y a tant de milliers de pêcheurs dans les hangars.
C'est peut-être au niveau des labels, type label rouge ou pas, il y a des...
En général, sur les appareils de chair en bas. Mais c'était des documents sur le site de la PMF, ou bien peut-être des chiffres qu'ils ont trouvés. dans la pratique, c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, dans les revues peut-être, ou les blagues. Mais en tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Hein. Pourtant, je pense avoir répertorié à peu près tous les textes. J'ai trouvé que ça. Et le problème essentiel, enfin essentiel, je sais pas, mais même ces règles, elles sont objectivement, elles sont pas appliquées. J'ai jamais vu de procédure concernant le transport des animaux. Même en Bretagne, j'en ai pas vu passer une seule. Alors que, bon, même si le texte paraît ridicule, hein, c'est, le texte dit qu'on ne peut pas les faire circuler pendant 8 heures, plus de 8 heures. Sans repos, je suis convaincue que tout le monde s'assoit dessus. Donc, après, se pose le problème de l'application effective, sachant que dans des régions, les régions comme la Bretagne, où ça représente un enjeu économique énorme, les services qui sont censés contrôler tout ça, c'est-à-dire la direction des services vétérinaires dépend directement du préfet qui reçoit certaines consignes. Et quand on a déjà eu une manifestation avec dépôt de lisiers, de choux-fleurs, de pommes de terre devant la préfecture ou même devant le tribunal, parce que ça a déjà été poursuivi aussi dans certains tribunaux, on le fait une fois mais pas deux. Donc, voilà aussi l'obstacle. Et eux, on ne les poursuit pas pour entrave à la circulation.
Sur les sites des rapports de commissions d'enquête du service vétérinaire européen sur la concurrence des transports, effectivement, des animaux, de l'éducation à s'arrêter dans les trains des locaux. Ça n'était pas respecté et il y avait des lettres, au ministre de l'Agriculture français. Qui devait répondre sous un certain délai et prendre des mesures, etc. Quoi. J'ai l'impression qu'en fait, la pression, elle venait des services vétérinaires, je crois que c'était ça, européens, quoi, hein, qui contrôlaient à la place des services vétérinaires français, ils leur imposaient des contrôles. Ah
oui. Mais c'est un intérêt économique aussi, hein, parce que ça pose le jeu de la concurrence, forcément. Et puis, pour avoir discuté avec quelques inspecteurs vétérinaires individuellement, ils sont très frustrés aussi, parce qu'ils voient ce qui se passe et il n'y a aucun moyen d'intervention. Quoi. Ça se négocie avec l'éleveur. Il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. C'est peut-être aussi, bon, en dehors des inspecteurs vétérinaires qui dépendent directement de l'autorité du préfet, on pourrait peut-être compter sur des gendarmes, mais là ça implique un travail de formation parce qu'ils sont pas spécialement formés pour ça. Et je suis pas sûre qu'ils connaissent tous la réglementation assez compliquée en la matière. C'est pas une infraction. Justement, tu l'évoquais hier. C'est, à mon avis, c'est interdit. Disons que si un préjudice est causé à l'abattoir, on peut réclamer des dommages et intérêts. Si par exemple la chaîne est arrêtée, etc., pourront réclamer des dommages et intérêts. Mais c'est pas une infraction. La violation de domicile constitue un délit, mais là c'est pas un domicile. Donc il y a l'entrave à la circulation qu'on peut relever contravention de 5e classe.
L'idée, j'aime ça, qu'on peut pas rentrer dans un abattoir comme ça, que la seule association qui a habilité à rentrer dans un abattoir, c'est l'OAVA.
Oui, mais si on le fait, qu'est-ce qu'on. À mon avis, on risque pas grand-chose pénalement.
Moi je le dis après.
Et nous accompagnerions,
hein,
parce que c'est ça au patron de l'abattoir.
Ah ben sur le plan civil, après il peut y avoir des répercussions. C'est clair que si jamais ça trouble le travail de ses employés, il y aura peut-être un préjudice économique dont il aura le droit de réclamer réparation. Mais sur le plan pénal, je vois pas bien quelle infraction on pourrait reprocher.
Le texte de 82, c'est une ordonnance, c'est ça ?
C'est un arrêté d'application d'un décret de 80. Mais je peux...
D'accord. Est-ce que, à ta connaissance, il a déjà été appliqué ? Non. Et la deuxième chose, c'est, il me semble que j'avais vu dans ton mémoire, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait eu une affaire à Strasbourg sur l'enlèvement d'un animal. Et le tribunal a été. Enfin, les conclusions, c'était assez délirant. C'était vu le statut de l'animal. Donc, à la fois, c'était pas contenu comme un vol, parce que l'animal était justement, par rapport à la loi de 75, c'était un objet sensible. C'est un objet, en fait. Un objet sensible dans la loi, je crois. Et à la fois, on pouvait pas parler d'enlèvement, parce qu'il n'y avait pas de loi qui fermait ça, et du coup la personne a été relaxée. Enfin, c'est le vague souvenir que j'ai, comme tu parlais qu'il y a eu une petite modification, mais bon, l'animal est toujours là, dans, à la fois meuble et à la fois être sensible. Enfin, ça me faisait réfléchir par rapport à l'action où ils envisageaient de kidnapper symboliquement un animal d'un abattoir, par rapport à ça, j'en ai pas. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, exactement, mais je crois que c'était un cas isolé. Hein. Moi, j'ai déjà vu poursuivre et sanctionner des vols. Je pense que ça peut avoir son intérêt aussi, parce qu'on sait que certains chiens ont une certaine valeur, que des gens sont à l'affût et les volent pour les revendre ou en faire un peu n'importe quoi. Donc, j'ai déjà vu passer ce type de cas. En général, c'est poursuivi, c'est condamné. Et là, je pense que c'est un magistrat qui a voulu se faire plaisir. Mais c'est très vraiment un cas isolé. Je pense que j'ai déjà vu condamner des gens pour ça. À mon avis, ce serait considéré comme un vol. Bon, le tout, c'est de ne pas se faire avoir.
Récemment, il y a eu un arrêté comme ça, enfin, une décision comme ça en Allemagne. Relax de quelqu'un qui avait volé, je crois, un animal dans un abattoir.
Ça peut arriver, hein, il suffit que vous tombiez sur un magistrat qui... Enfin, ça peut arriver, hein.
Donc, il n'y a pas une liste des magistrats qui seraient d'accord
pour... De choisir son magistrat.
Auprès d'un abattoir, notamment.
On est devant la loi qui interdit de tuer un animal sans nécessité. Il y a eu un article dans les cahiers, il y a quelques temps là-dessus. Les abattoirs sont illégaux, quoi. Donc, il y a l'article du code pénal, si je comprends bien, qui interdit de tuer un animal sans nécessité, ou un animal domestique. Par domestique, on entend bien d'élevage, hein, on est d'accord, hein, dans ce cas-là, je pense. Hein. Dans quelle mesure, en fait, parce que le caractère qui prouve la faute, c'est sans nécessité, quoi, hein, tout est là. Donc, pour le commun des mortels, ça suppose que si on tue pour le manger, c'est avec nécessité, quoi. Et est-ce que là, il n'y a pas une faille réelle, en fait, de la législation, et est-ce que les autres textes auxquels tu fais allusion, certains que je connais qui autorisent, qui décrivent les modes d'abattage des animaux, par exemple, les modes d'élevage, est-ce que ces textes-là viennent combler ce trou, quoi?
À mon avis, oui, je pense pas que les magistrats soient capables d'entendre ce discours. J'en connais pas un qui accepterait de condamner sur ce fondement, sachant que justement, on a tout un animal donc élevé pour sa chair qu'on tuerait. Enfin, à mon avis, on va droit au mur, hein, essayer de poursuivre ce genre de cas. Parce que de toute façon, c'est autorisé, on considère que c'est nécessaire, et on a même des textes qui nous disent comment faire. On a toute une série de textes sur les modes d'abattage, hein. C'est très réglementé, ça aussi. C'est pas spécialement respecté non plus, mais c'est très réglementé.
Mais est-ce que quand même ça donnerait pas lieu à un débat d'experts, en l'occurrence? Je pense que c'est en fait un procès qu'il y a eu en Angleterre, il me semble, avec McDo et des activistes qui avaient attaqué McDo sur des critères de souffrance des animaux, et il y a eu en fait donc McDo attaqué, je crois, en disant que vous faites de la mauvaise pub, et du coup ça a été un débat d'experts. Est-ce que les animaux souffrent dans les élevages sous-traitants de McDo? Et donc la réponse était oui, le juge a dit oui, ils souffrent énormément, et d'ailleurs un des DG de McDo a dit qu'effectivement c'était le cas, qu'il reconnaissait, et que bon, le procès n'avait pas un impact considérable sur les conclusions, mais ça avait été reconnu, quoi, dans les actes. Et je me demande, en fait, là, est-ce que ça serait ça donnerait pas lieu quand même à un débat d'experts ou pas, ou ce serait classé par le juge? Ensuite, lui considérait que c'est nécessaire parce qu'il en mange lui-même, et que ça s'arrêterait là, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen, que le droit n'est pas contraignant vis-à-vis de la procédure, pour qu'on établisse le caractère de nécessité ou pas?
Tu parles des mauvais traitements lors de l'élevage, ou
non,
du principe même de l'abattage?
De l'abattage, en fait. De l'abattage qui serait tomberait sous le coup de la loi interdisant le meurtre d'un animal sans nécessité. Est-ce que ça ne donnerait pas lieu à un débat d'expert nécessairement, quoi que veuille en faire le juge, ou pas, ou le juge a beaucoup d'autonomie là-dessus?
Bah, de toute façon, il a toute autonomie, mais je suppose que l'éleveur fera appel et irait jusqu'en cours de cassation. Et là, à mon avis, on n'est pas prêt à admettre ça. Ça voudrait dire qu'on abolit purement, qu'on généralise le végétarisme et qu'on abolit totalement l'élevage.
Non, bien sûr.
C'est pas la volonté du législateur et les magistrats ne sont pas là non plus pour faire ce qu'ils veulent. Quoi. Donc,
c'est pas ça que j'avais en fait. C'était de porter sur la place publique le débat de est-il nécessaire de tuer les animaux ou pas.
Je pense que le débat, il n'est pas juridique.
Hein. Oui, est-ce qu'il n'y a pas là une occasion intéressante de pouvoir le provoquer, quoi, de dire...
On peut essayer, mais on ne gagnerait pas.
Non, mais l'important, ce n'est pas de gagner, en l'occurrence. Oui. C'est que le débat soit porté sur la place publique. Alors après, parce que ça coûterait peut-être cher, c'est ça, hein.
Bah, est-ce qu'il y a une chance que le juge le place avant même que ça soit discuté?
Alors, sur les moyens d'action, il y a deux choses. Soit une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, mais c'est possible seulement pour les délits, sachant que là, ça engage à verser une consignation qui sera reversée à l'issue si l'affaire est considérée comme... Enfin, la consignation sert à payer, le cas échéant, la peine d'amende qui pourrait être prononcée, l'amende civile qui pourrait être prononcée si on considère que la plainte est abusive. Donc il y a cette procédure devant le juge d'instruction instruisant l'affaire et ensuite renvoyant ou non devant le tribunal correctionnel. Et puis il y a la possibilité de faire citer par voie d'huissier directement devant le tribunal de police pour les contraventions ou devant le tribunal correctionnel pour les délits. Et là, ça n'engage pas à grand-chose. Là encore, on vient la première fois à l'audience, on doit payer une consignation, là encore, toujours dans l'hypothèse où une amende civile serait prononcée. Et puis on revient une deuxième fois et là, l'affaire est évoquée. Voilà les deux façons qu'on peut utiliser. Maintenant sur l'opportunité,
tu as dit que le droit en général entérine une évolution déjà acquise. Donc là on travaille à l'envers. Ouais. Il faut que l'évolution soit déjà acquise pour qu'il y ait un dialogue d'experts. On ne peut pas commencer par le dialogue d'experts avant l'évolution, apparemment.
Je crois que la discussion elle n'est pas juridique, hein, elle est éthique quoi actuellement. Alors le problème est différent. Concernant par exemple certains types d'élevage, j'en viens toujours au point du foie gras, c'est illégal, c'est clair, les conditions dans lesquelles il est pratiqué en ce moment sont pas du tout conformes à l'arrêté de 82.
Ah oui.
Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, les éleveurs. Hein. Je pense qu'il doit y avoir certainement de la littérature là-dessus dans les revues spécialisées. Et là, par contre, il y aurait moyen peut-être de faire quelque chose, à condition d'être bien documenté et de pouvoir réunir suffisamment de preuves contre tel ou tel élevage. Là oui, parce que on confronterait des faits à cet arrêté de 82. Je suis sûre même que la réglementation n'interdit pas de tuer un animal pour le manger, quoi, c'est clair.
Qu'est-ce qui prend les trois paroles ?
Je prends les trois paroles, mais pour les trois personnes qui viennent d'arriver, on fait un trois paroles quand ça commence à être un peu gros. Et il faut signaler à moi en prenant la main, puis je vous note, et puis la personne a fini. Je dis à qui c'est, comme ça l'enregistrement pour la transcription de ce qui a parlé. Et je pense que pour ce débat-là, on peut laisser la réponse à chaque fois à Nadia, si elle s'appelle une réponse à Nadia. En dehors de son tour de parole. Attends, là, Denis, tu veux dire
Ouais.
Donc, Élie.
Ouais, vu ce procès, ça serait bien si les forêts de Nadia nous disent si ça peut avoir un effet. Même si on le perd, si ça peut avoir un effet, une répercussion sur les médias et tout ça. Et ce qui serait bien, ce serait effectivement de prouver vraiment devant les tribunaux que manger de la viande n'est pas nécessaire en ayant un diététicien, un médecin, un diététicien végétalien, un médecin végétalien, des gens qui sont végétariens depuis la naissance. Et là, le juge serait obligé au moins de faire soit de reconnaître qu'effectivement c'est pas nécessaire de manger de la viande pour se nourrir, soit être de mauvaise foi. Ça pourrait être intéressant, quoi.
Je crois que concrètement ça n'aurait pas tellement d'impact. Parce que qui va-t-on poursuivre là? On va poursuivre l'ouvrier d'abattoir. Hein. C'est lui, hein, qui sera. C'est pas le chef d'entreprise qui. Pas contre la personne morale, c'est contraventionnel là. Hein. C'est une contravention de 5e classe. Donc voilà, on va poursuivre cet ouvrier qui fait, bon, en général, il ne fait pas ça par plaisir. Donc il y aura déjà cette dimension à prendre en compte. le débat, on sait très bien qu'il est perdu d'avance, parce que là encore, il est éthique, le débat, il n'est pas juridique. Les textes autorisent ça. On a plein de textes qui permettent d'abattre les animaux dans telle ou telle condition. Donc dès lors qu'elles sont respectées, à supposer qu'elles le soient, je ne vois pas comment on peut placer le débat sur ce terrain-là. Bah non, il faut viser quelqu'un. Enfin, tu peux porter plainte contre X, hein, mais ça va pas aboutir. Il faut trouver quelqu'un à juger après.
Oui, voilà, la seule chose que j'ai retenue, c'est...
C'était toujours dans le même sujet, parce qu'il me semble que... Enfin, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble que l'article de loi dont on parle, en fait, a un alinéa qui précise que la mise à mort d'animaux est interdite, sauf dans le cas où ça constitue une... ça rentre dans le cadre d'une tradition, je crois.
Ouais.
Et je crois qu'il n'y a pas de... La mise à mort d'animaux pour la consommation, c'est une tradition qui est... plus de 2000 ans, donc je crois que c'est perdu d'avance.
Je crois aussi, oui. D'autant plus qu'on a aussi des textes qui nous disent, voilà, on peut abattre les animaux de telle et telle façon. Je pense que c'est pas du tout un débat juridique. Hein. Je pense qu'il faut d'abord faire avancer les mentalités avant d'en arriver là, parce qu'il est perdu d'avance, le débat.
Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que c'était une loi qui dit, enfin, c'est une loi qui dit qu'il est interdit de faire, sauf si ça se fait déjà.
Tu parles des combats d'animaux, je crois, ou de...
De la nourriture, hein. Je parle de la nourriture.
Ben, je parle de la mise à mort d'animaux, je crois qu'en fait, il y a une précaution comme ça qui permet de garantir la consommation d'animaux, la mise à mort d'animaux dans le cas de corrida ou de spectacle.
Corrida, c'est bien précisé. Hein.
Ouais.
Corrida, il y a un alinéa qui dit que s'il n'y a pas de tradition taurine depuis plus de 30 ans...
Coutume locale ininterrompue.
Voilà. Et nous, on a l'exemple sur tout. Enfin, je ne sais pas si je peux prendre la parole.
Mais... Non.
Mais ça ne concerne pas spécifiquement la corrida. C'est une tradition locale ininterrompue, pas forcément une tradition taurine.
J'ai pas ici le texte précis. Je crois que c'est dans le code rural. Non, c'est dans le code pénal en fait. Mais j'ai plus le texte. J'ai pas le texte ici. Je suis pas sûre qu'il y ait cette que la nuance de l'abattage de la chasse soit ajoutée dans l'article. Mais en tout cas, elle découle des autres textes. Ça revient aussi à tenter d'obtenir gain de cause contre la chasse devant un tribunal. C'est, à mon avis, c'est peine perdue.
C'est pas ça l'idée.
C'est bon ? David ?
Moi ? Oui, enfin, c'est toujours un peu sur le même sujet. Moi, je suis pas convaincu que ce soit. Je pense que clairement les lois suivent l'éthique et que c'est sur le terrain du débat public, du débat politique, du débat éthique qu'il faut se placer en premier. Mais j'avais été très étonné et d'une certaine façon un peu ébloui par une conférence que j'avais entendue en Italie il y a bientôt une dizaine d'années d'un certain Valerio Poccar qui était prof de droit et qui expliquait que c'est vrai que les lois sont le reflet de l'éthique d'un pays, mais qu'elles sont aussi un moyen pour forger l'éthique d'un pays. Alors, je me rappelle plus exactement comment il l'expliquait, mais je crois qu'un bon exemple, c'est par exemple l'abolition de la peine de mort qui a été abolie alors qu'il y avait une majorité qui était pour la peine de mort. Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a une majorité en France qui n'accepterait pas le retour de la peine de mort. Et que, donc d'une certaine façon, l'idée qu'il n'appartient pas à l'État de tuer quelqu'un, en l'occurrence de tuer un être humain, c'est quelque chose qui existait dans la société. C'est sûr que si la peine de mort a été abolie, c'est parce qu'il y avait un débat social autour de ça, mais que la loi a quand même été un instrument pour faire avancer l'éthique de la société elle-même, l'éthique au sein de la société elle-même. D'autre part, je pense que les lois sont, bon, ont un aspect technique, c'est-à-dire que les lois valent à travers leur application, mais les lois valent aussi à travers leur... en tant que proclamation. Alors la peine de mort, c'est évident, je veux dire, c'est un symbole, c'est pas simplement le fait qu'on ne va plus exécuter des gens, c'est un symbole que l'État ne se donne plus le droit de tuer un être humain. Je pense que c'est un certain caractère symbolique. La France peut, par exemple, proclamer à la face du monde, chez nous, il y a une loi qui interdit de tuer un animal sans nécessité. Et que par ailleurs, il y ait une pratique qui soit totalement différente, et même une pratique qui soit juridiquement avalisée à travers d'autres textes qui ont peut-être une priorité, enfin je ne sais pas exactement comment marche la priorité d'un texte sur un autre légalement, parce qu'il arrive souvent que deux textes se contredisent, ça doit être le texte le plus récent qui a une priorité, mais il y a peut-être aussi différents types de lois entre les décrets, les lois proprement parlées, et les textes constitutionnels et d'autres, enfin il y a peut-être une priorité aussi suivant les types de textes. Et je pense que ce caractère général de cette loi qui dit il est interdit de tuer un animal sans nécessité lui donne peut-être, juridiquement je ne sais pas, mais en tout cas un niveau, disons, idéologique, un niveau du débat public, un caractère peut-être plus visible que les petites lois de détail qui règlent l'abattage. Alors, je pense que c'est clair que si on porte plainte contre l'abattoir X d'avoir tué un animal, on a assez peu de chances de gagner devant un magistrat. Mais je pense qu'on peut aussi prendre ça autrement. Par exemple, dire, nous demandons que la loi qui dit qu'il est interdit de tuer un animal soit changée. On dit la France n'applique pas cela, et il est hypocrite que la France ait une telle loi. Nous demandons qu'il soit marqué, il est interdit de tuer un animal inutilement, sauf pour le plaisir de manger. Ah bon, là je le dis dans des termes qui sont un peu... qui seraient peut-être pas repris dans la loi. Mais je veux dire, je trouve par exemple que implicitement la loi qui dit il est interdit d'exercer des mauvais traitements, des cruautés sur les animaux, sauf quand une tradition locale existe, implicitement, elle signifie que ces traditions locales sont des actes de cruauté. Je veux dire, sinon, elles ne seraient pas exclues explicitement par la loi. Si la loi dit ça ne s'applique pas dans tel cas, ça veut dire que s'il n'y avait pas cette précision, ça s'appliquerait. Et par conséquent, c'est bien un acte de cruauté que les corridas. Les corridas sont des actes de cruauté avec, enfin répondant à toutes les qualifications que la loi énumère avant, qui en font des choses dont on peut se dire que c'est moralement répréhensible, enfin que n'importe qui acceptera de dire que c'est moralement répréhensible d'exercer des actes de cruauté. Je pense par exemple ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans la lutte contre la corrida, le fait que la loi même dise implicitement que la corrida est un acte de cruauté, quoi, par l'exemption elle-même. Pardon ?
L'expérimentation est incluse aussi dans cette exclusion.
Est incluse dans l'exclusion aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui, sous cette forme-là, peut-être en prenant les trucs un peu au contraire de leur façon, de l'intention de départ de la chose, si on obtenait que la consommation des animaux pour la viande soit exclue de cette loi, que la loi soit modifiée et dise qu'il est interdit de tuer les animaux inutilement, sauf pour leur viande, eh bien, dans la loi, il aura été implicitement marqué qu'il est inutile de tuer les animaux pour leur viande, quoi. Ah bon, ça c'est juste des suggestions, mais je pense que c'est clair que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait à un niveau purement juridique, c'est-à-dire juste attaquer, porter une simple plainte. Ça, ou alors ça pourrait être une simple plainte, mais avec une campagne derrière, quoi. Ce ne serait pas une simple plainte qui gagnerait, qui permettrait d'avoir gain de cause. Mais je pense quand même qu'une campagne autour de ça pourrait avoir un certain intérêt.
C'est pas exclu, j'ai pas le texte là, c'est dommage, j'en ai beaucoup, mais j'ai pas celui-ci. Il est possible que ce soit précisé
dans le texte.
Dans le
numéro des pages.
Ah bon. S'agissant aussi de la première remarque sur la peine, je connais pas beaucoup de textes qui ont été imposés comme ça de force par des législateurs sans que la population soit prête là. L'exemple de la peine de mort, il est à part, parce que pour avoir un peu pratiqué les assises, je crois que la population est majoritairement pour la peine de mort.
Aujourd'hui encore.
Encore aujourd'hui. Et la personnalité de Robert Badinter a fait à l'époque que, bon, on l'a suivi, mais je suis pas sûre qu'on puisse reproduire ça dans d'autres domaines.
En même temps, c'était pas une grosse majorité, donc la France était partagée. Hein. Mm-hmm.
Comme on a dit à l'époque, c'est par rapport, je peux parler, par rapport à toi, aux animaux, c'est à moi.
Non.
Il y a Yves, Denis, André, Dominique, Antoine, c'est
comme ça. Oui, oui. Là, c'était par rapport à la... Moi, je voulais... Pour moi, c'était assez clair que l'intervention au départ de Antoine, c'était sur comment agir à un niveau juridique. Le but, c'était pas juridique. Donc, en fait, à aucun moment, je pense, l'idée, c'était qu'on pouvait gagner tel procès. L'idée, c'est plutôt de, à travers le fait de lancer des procès de ce style, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal, sur des contradictions qui sont des contradictions juridiques et qui peuvent sembler être purement formelles, mais en fait qui recoupent des contradictions de la morale publique. Les gens ont envie d'avoir bonne conscience et de se dire qu'ils ne tuent pas un animal sans nécessité et ce genre de choses. Moi j'avais eu un peu une idée générale là-dessus, je me demandais si ça ne vaudrait pas le coup, mais j'en sais rien du tout. Hein. De fonder une assoc dont le but soit de lancer des procès comme ça, avec tout un battage, en essayant de faire tout un battage un peu médiatique, faire une récupération, une mise en évidence argumentée de ces contradictions-là, essayer de mettre du coup de mettre en évidence ces contradictions et de poser le problème, de soulever les débats. Pas du tout dans l'optique qui me semble effectivement complètement illusoire de gagner un quelconque procès là-dessus, mais simplement comme prendre ça comme un type d'action comme un autre, en fait, comme le fait d'aller manifester devant un abattoir. Simplement un truc qui est quelque part un peu spectaculaire, un peu qui met le doigt quelque part. Quoi. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure une assoc peut faire des procès.
Il y a déjà à Girard.
À quoi ?
À Girard. J'en fais plus partie, bon, j'ai dû adhérer un an ou deux, mais sans vraiment fréquenter, je sais que ça regroupe pas mal ça regroupe des juristes, qu'ils soient avocats, magistrats, beaucoup de gendarmes aussi. Et ça permet de faire circuler l'information déjà entre juridictions, et puis de s'entraider pour débloquer éventuellement telle ou telle affaire. Hein. Entre personnes un peu plus sensibles au problème. Bon, il y a peut-être des gens plus intéressés par ça au sein du
Girard. Oui, mais eux restent, Agira reste complètement dans une optique juridique. En fait.
Oui.
Et que là, en fait, moi, ce dont je parle, c'est utiliser le juridique pour quitter le juridique. Et en fait, c'est pas du tout le but, le juridique. C'est simplement s'en servir comme d'un levier médiatique, en fait. Mm-hmm. Un truc symbolique qui parle aux gens. Et tout.
Alors justement, pour pouvoir porter plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction, il faut que l'association ait été déclarée depuis 5 ans au moins.
Ah oui. Et il faut que ces statuts correspondent à quelque chose, à un rapport.
Que, bien sûr.
Mais je voulais parler un peu de la chasse, parce que tu dis qu'en fait le droit européen est appliqué sur la chasse. En fait, justement, Bachelot, elle n'arrête pas de faire des arrêtés qui contredisent ça, notamment sur les périodes d'ouverture de la chasse, notamment pour certaines espèces. Et régulièrement, elle se fait matraquer en Conseil d'État ou autre, au Sénat, je veux dire. Parce que les textes européens ne sont pas appliqués, donc le Sénat il est forcé d'entériner le code européen, sinon la France se met carrément hors la loi par rapport à ça. Alors il y a cet aspect juridique, mais il y a aussi le fait que dans la réalité les braconniers et toute une série de personnes, avec la complicité plus ou moins ouverte des pouvoirs publics, ne font pas du tout respecter les périodes de chasse et les espèces protégées ou pas. Ce qui fait que les braconniers, bon, ils font pratiquement ce qu'ils veulent dans certaines régions. Et puis voilà, donc n'y a pratiquement pas de condamnations qui sont portées par rapport à ces gens-là. Donc là, c'est évident qu'au niveau juridique, ou par rapport à des campagnes qui sont faites, il y a largement matière à ne serait-ce que faire appliquer le code européen, quoi.
La France a déjà été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes à de très lourdes amendes, hein, qu'elle a dû acquitter, et ça n'empêche pas de continuer, oui, au détriment du contribuable français. Et c'est vrai que bah oui, le braconnage a toujours existé, mais c'est vrai que là, il est institutionnalisé dans certaines régions. D'accord, mais c'est un choix politique, j'ai l'impression.
Alors, il y a une autre idée, moi, c'était de dire que puisque certains pays, par exemple, européens, ont justement une avancée beaucoup plus importante sur certains sujets, sur certaines matières, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, dans le cadre du Parlement européen, se servir de ces législations nationales et les porter justement en débat au niveau européen et nous emparer de cette législation pour justement essayer de faire avancer la législation sur toute l'Europe et particulièrement en France.
C'est ce qui se passe actuellement, monsieur. C'est ce qui se passe, hein. Au sein de l'Eurogroupe, notamment.
On pourrait avoir ces textes justement qui sont actuellement débattus parce que ça pourrait être aussi pour nous l'occasion de pouvoir peut-être faire des campagnes ou des choses comme ça sur des thèmes précis qui puissent faire progresser les choses. Quoi.
Et la Fondation Brigitte Bardot est membre de l'Eurogroupe officiellement. La Ligue y participe officieusement et essaye d'aligner les campagnes en fonction de l'ordre du jour de l'Eurogroupe et donc de l'actualité à la Commission. C'est ce qui se passe maintenant, c'est un problème de diffusion de l'information, mais je sais que la Ligue, autant que possible, essaye de coller à cette actualité. Donc, je pense qu'il faudrait... C'est toujours la même difficulté, hein. On est morcelé et l'information circule pas forcément très bien entre les associations. Il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, mais oui, je suis d'accord. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer, ouais. sous la contrainte des sanctions européennes.
André ?
Oui, donc c'est deux questions.
Une concernant la chasse.
Savoir quelle est la réglementation en France, parce que je crois que parler de propriété privée, je crois qu'un chasseur, enfin, à une époque, tout au moins, il avait le droit de rentrer sur la propriété privée pour venir poursuivre un animal et l'abattre. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était en France. Puis ensuite, le deuxième point, ça concerne les corridas. Tu as parlé tout à l'heure du droit qui entérine l'évolution, donc qui n'est pas éthique. Je pense que c'est bien, ça, c'est une bonne chose, ça reflète la réalité du pays. D'un autre côté, bon, il y a des arrêtés qui ont été pris concernant les corridas, et dans le sud-ouest par exemple. Donc, il y a cet arrêté qui dit que s'il n'y a pas de tradition ininterrompue, locale, ininterrompue depuis moins de 30 ans, on peut poursuivre. Hein. Et la corrida donc, a été pratiquée dans le sud-ouest dernièrement à Feuillet, à Rieux l'an dernier, dans des villes qui n'ont jamais eu de tradition taurine, ou qui en ont eu depuis plus de 30 ans. Et le juge a simplement autorisé la corrida, simplement en argumentant sur le fait que le terme local ne se situe pas au niveau du village, de la ville, mais il l'a étendu sur le sud-ouest. C'est-à-dire que pour lui, l'interprétation de la loi, le terme local, c'est sud-ouest. C'est-à-dire que maintenant, tu as des villes comme Albi qui envisagent de mettre en place des corridas, alors qu'elles n'ont jamais, jamais eu de corrida dans le passé. Tu vois. Donc, il y a le droit. Et puis après, il y a l'interprétation du droit et puis les lobbying derrière. Alors je me demande, c'est compliqué, quoi. Et je ne vois pas trop comment on peut s'en sortir. Ce qui est valable pour le corrida, on risque d'avoir demain pour d'autres choses.
Oui,
quoi. C'est un rapport de force, quoi.
Oui, mais le texte est assez confus, hein, s'agissant des corridas. Je l'ai sous les yeux, là. Donc le texte dit que les dispositions donc, qui concernent les actes de cruauté et les mauvais traitements ne sont pas applicables aux combattants. Aux courses de taureaux, puis ça concerne les combats de coqs aussi, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Ouais. Et la jurisprudence dit que, donc pour interpréter la notion de tradition locale ininterrompue, elle dit que la tradition est réputée tradition locale lorsqu'elle existe dans un ensemble démographique déterminé par une culture commune. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de limite définie.
Cette loi
date de quand ? Et ça concerne les combats de coq aussi. Mais pas les combats de chiens qui sont interdits, eux, en principe. Par contre, pour la chasse, là, j'ai pas suffisamment potassé la question. Je sais que la loi Verdeil, là, qui a été très critiquée, permettait de constituer des associations communales de chasse agréées. Ouais. Et était inclus d'office toutes les propriétés dont la superficie est inférieure à un certain seuil. Donc, j'ai pas le chiffre en tête. Je crois qu'elle a été remise en question l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais. Et maintenant, je sais pas trop ce qui existe. En fait.
Toute propriété privée peut être interdite à la chasse. Hein.
Ouais. On veut bien qu'elle a été abolie, cette abolie.
La chasse, là, dans leur bulletin, nous donne des indications, en fait, justement, pour savoir procéder. Comment procéder, c'est-à-dire qu'il va mettre un panneau, mais tu dois faire enregistrer cette interdiction.
Oui, il faut déclarer l'association de chasse locale, je crois.
Non, même pas. Aussi. Il suffit que tu mettes ce panneau et que ce panneau soit enregistré également. Et voilà. À ce moment-là, c'est OK.
Oui, donc je voulais parler aussi de cette loi, parce qu'une loi sur la tradition, moi, ça me semble tellement incohérent. Enfin, maintenant que ça, c'est la même. Je trouve que c'est tout à fait incohérent.
Oui, mais je crois bien que c'est De Gaulle, effectivement.
Une de plus, ça s'en prend. Voilà. Et donc, ceci dit aussi, je voulais parler, moi ça m'a beaucoup frappé quand tu as dit qu'en fait, une loi, en général, entérinait déjà une éthique, quelque chose qui était venu. Et justement, je pense que peut-être que l'éthique la plus facile à réaliser, c'est celle vis-à-vis des étudiants des matières biologiques, etc. Et même, donc, il faudrait peut-être envisager des actions, et ne serait-ce que comme ça existe déjà dans des pays comme l'Italie, faire venir des gens qui ont pu vivre cette loi dans les laboratoires des universités, où ils voient que s'ils ne font pas d'expérimentation animale, ils ont peut-être même des choses plus intéressantes à faire, et faire par exemple une série de conférences pour les étudiants, bien vraiment leur expliquer qu'ils n'en ont pas besoin, que c'est cruel, faire des démonstrations, faire des choses comme ça. Et à ce moment-là, peut-être les étudiants qui ont quand même la parole pour eux, ça pourrait se répercuter sur d'autres choses de leur vie, comme par exemple, les éveiller à la conscience que l'animal est un être qui souffre et qui est sensible. Donc il y aurait peut-être des choses à initialiser.
Oui, sûrement. Bon, je suis assez pessimiste par rapport à ça, parce que bon, j'ai quitté la fac il n'y a pas si longtemps que ça, mais je n'ai jamais réussi à mobiliser des étudiants vraiment sérieusement sur la question. Dernièrement, ça a recommencé quoi, sur le problème de l'objection de conscience. Bon, j'ai peut-être mal fait les affiches, mais c'était assez clair. J'invitais à un débat, tout simplement, hein, sur le problème de l'objection de conscience, sur l'opportunité. Voilà, c'était comme ça. Et j'en ai mis partout à Jussieu, en plusieurs fois, et j'ai jamais eu un seul retour. Alors,
oui, peut-être.
Oui, il faut une photo. Hein.
Ouais, ouais.
Vous avez mis un contact.
J'ai mis mon email et un numéro de téléphone. Donc oui, il faut
faire un choc.
Et je suis pas sûre que les étudiants se sentent vraiment concernés. Quoi. C'est, je crois qu'on commence souvent en entrant dans la vie active, malheureusement. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Hein.
Oui, mais ceci dit, quand on discute quand même de pied ferme avec eux, il y a quand même des réponses et ils sont pas très fiers et ils ont l'air de comprendre. C'est peut-être pour nous faire plaisir, j'en sais rien, mais. Ils ont l'air assez perturbés pour qu'on avance un peu.
Et j'avais essayé de faire un projet de statut sur ce sujet. Mais on constate aussi que sur le site Interniche, il n'y a pas un français. Quoi.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Euroniche, il n'y a pas un français.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut faire venir des gens de l'étranger. Et Interniche propose ses studios. Mmh. Donc propose des gens pour venir vraiment faire les conférences. Et...
Oui, Euroniche, c'est ce... Merci, David. C'est ce site qui a été créé par des étudiants justement qui revendiquent l'objection de conscience à l'expérimentation animale. On y trouve surtout des Danois, je crois, des Scandinaves en fait, hein. Des Allemands aussi. Donc ils essayent de faire progresser l'idée, mais jusqu'à présent, seule l'Italie a pu tenir une main.
Quels sont les risques en termes de procédure juridique? C'est la responsabilité limitée comme une entreprise, ou ce qu'on veut, ça peut aller dans les exemples dont on discutait tout à l'heure sur le meurtre inutile. Quels sont les risques à attaquer? Quels sont les pourquoi on s'engage dans le contrat?
Matériellement, à payer les frais d'avocat de l'adversaire.
C'est l'humanitaire.
Que le tribunal fixe. Éventuellement payer une amende civile, mais c'est pas appliqué, appliquer ça. On risque, à mon avis, surtout de se prendre une bonne claque, et notamment, je pense à l'exemple des corridas, cette action a fait reculer la frontière de la zone où la corrida était tolérée, alors qu'avant elle n'était pas vraiment fixée, elle était encore dans le
cours. Je pensais aux abattoirs, là, dans les exemples.
Oui, oui. Non, mais on risque aussi de figer une situation pendant longtemps. Enfin, bon, là, pour les abattoirs, de toute façon, on sait déjà dans les temps.
C'est donc ces quelques milliers, une dizaine de milliers de francs, peut-être, quand même.
Là, ce serait le tribunal de police. Non, ce serait de l'ordre de...
Sans nécessité, c'est contravention tribunal de police. Hein,
ouais. C'est cinquième place. 5000 francs maximum, je pense. Grand maximum. Plutôt entre 2 et 4000 francs, je pense.
Et nécessairement, donc, tueur, comme on les appelle, là, les abattoirs. Hein. Enfin, c'est un contour ça.
À mon avis, on ne peut pas poursuivre la personne morale. Hein. Il faudrait que je voie le texte, en fait. Mais. Pour les contraventions, il faut que le texte aussi vise spécifiquement la personne morale. Sinon, c'est celui qui fait le geste lui-même. Donc ce serait l'ouvrier d'abattoir. Ouais. On ne pourrait pas poursuivre, à mon avis. A priori, le texte ne vise pas la possibilité de poursuivre la personne morale. Si on avait pu poursuivre la personne morale, comme c'est le cas par exemple pour les mauvais traitements commis dans un élevage, là on peut poursuivre la personne morale, donc citer en la personne du chef d'entreprise. Et là sinon on est obligé de poursuivre l'employé. Donc je ne sais pas si médiatiquement ce serait intéressant. Je crois que ce ne serait pas forcément en notre faveur. Sachant qu'en plus les audiences de police, il faut voir comment ça se passe. Il y a 50 dossiers à passer dans la matinée. C'est un abattage, quoi. On va pas forcément écouter les gens parler pendant 2 heures sur...
Oui, bon, je suis convaincu qu'une évolution des consciences, des mentalités s'impose et que l'appareil juridique peut s'harmoniser en fonction de cela. On sait très bien que toute véritable évolution est précédée d'une révolution. En l'occurrence, là, ce qui est à préconiser, c'est la révolution des assiettes. Et que, d'autre part, en fonction aussi du respect, de l'application, je crois que tu as parlé de la règle d'or, qui est d'ordre universel, on peut dire, qui se résume simplement « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », évidemment appliqué au règne animal. Je pense effectivement qu'on peut obtenir au bout d'un moment une masse critique qui peut inverser la tendance et que le reste peut suivre à partir de là et que en fonction d'une véritable évolution des consciences et des mentalités, les lois les plus ajustées viendront, si on peut dire d'elles-mêmes, et seront en plus appliquées. Enfin, c'est ma conviction.
Oui, moi j'avais 3 petites choses à dire. Par rapport au foie gras, tu disais que c'était illégal. Peut-être que par rapport à l'idée que vous lanciez David et Nathalie, ce serait bien de prendre une noire, par exemple. Et dans un abattoir et peut-être qu'on ne sont peut-être pas.
C'est privé, mais privé.
Enfin, je trouve que ce serait bien de faire quelque chose sur ce terrain-là, puisque apparemment ce serait illégal, peut-être commencer par les oies et voir après, quoi, je ne sais pas. Ensuite, la Gira, je l'avais déjà dit, mais j'avais été à leur meeting annuel l'année dernière, c'était le 11 septembre. Il y avait des montagnes de viande au buffet, quoi. Donc apparemment, ils s'occupent plutôt des animaux de compagnie, en tout cas pour l'instant, mais le végétarisme, j'ai l'impression que ça leur passe un peu au-dessus, quoi. Hein. Je me souviens très bien de ces pyramides de viande, quoi,
au buffet, quoi.
Donc, c'était... ils avaient invité des gens célèbres, hein. Il devait y avoir Alain Delon, mais comme c'était le 11 septembre, beaucoup de gens s'étaient désistés, mais... apparemment, ils ont un capital de gens connus qui les soutiennent. Mais le végétarisme, je ne crois pas que ce soit dans un programme.
Hein. Ils ont sauvé quelques pitbulls, mais...
Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt limités aux animaux de compagnie. La GIRA, l'association des juristes pour les animaux. La troisième, dernière chose, c'est quand on pense à la corrida, quand même, local, c'est pas régional, quoi. C'est pour ça que je suis quand même étonnée de cette justice injuste, quoi, parce que local, ça dit bien local, ça dit pas régional. Donc je comprends pas très bien. Et ça me fait penser qu'il y a longtemps, je m'intéressais à la lutte des Noirs, à la peine de mort, en Slovénie, tout ça. Et souvent, les Noirs, les Blacks, souvent, quand ils étaient en plein cœur de l'apartheid en Amérique, pour lutter contre cette injustice, beaucoup commençaient à faire des études de droit, parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas soutenus par les juristes blancs, enfin pas assez soutenus, et il y en a qui se sont lancés dans les études de droit justement pour que leur cause avance. Et je me dis que peut-être on manque de juristes dans la cause animale, quoi. Parce que ça avancerait peut-être plus vite.
Je crois aussi que certains collègues sont allés s'installer là-bas, dans ces régions, parce qu'ils aiment la corrida, tout simplement. Bon, c'est représentatif de la population, hein.
Les juristes végétariens, oui, ça peut être grave, certainement.
Ah oui. En fait, je voulais rester dans cette idée-là que défendent Yves et Antoine de procéder sur la base de ce texte, parce que je ne suis pas. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on soit obligé de. Attaquer un employé. Enfin, il me semble que dans le procès qui a eu lieu autour de la corrida, c'est bien des municipalités qui ont été mises en cause en tant qu'organisatrices de corrida, et pas le matador ou le torero. De la même manière, donc je dis qu'il faut que ce soit une association qui porte plainte, que cette association doit exister en tant que telle depuis 5 ans. Alors, est-ce qu'il faut que dans ses statuts figure qu'elle a comme objectif de mener des actions en justice, ou est-ce qu'il suffit que ce soit une association qui se déclarait comme objectif de la libération animale? Je pense à l'association des pays antispécistes, par exemple, qui a pu le faire.
À mon avis, il n'est pas nécessaire d'inclure dans les statuts qu'elle représenterait telle ou telle cause en justice. Hein. Le fait qu'elle donne pour objet de défendre les droits des animaux, c'est pas suffisant.
Mais là, c'était la FLAC qui a poursuivi en justice, hein, et qui a perdu. Donc la FLAC, c'est quand même, elle a pour statut la défense contre les corridas. La FLAC est plutôt une organisation en
corridas. Maintenant, le texte qui a été utilisé, je suppose, dans le cadre de cette affaire de corrida, permettait probablement de poursuivre la personne morale organisatrice. Ce n'est pas les mêmes fondements, là. Ce n'est pas les mêmes textes. Là, c'était un délit. Là, on est dans le cadre d'une simple contravention. À mon sens, on ne pourrait pas poursuivre. Il faut que je vérifie que j'ai le texte in extenso, hein, mais... je ne pense pas, a priori, qu'on puisse poursuivre l'abattoir en tant que personne. Je vérifierai, hein, mais je ne pense pas.
Oui, l'abattoir, avec des grandes marques, quoi, les grandes chaînes, comme Michon, Charal, les sociétés.
Contre cette décision, les personnes donc, s'occupaient de l'abattoir. Je ne sais pas exactement si les employés de l'abattoir ou si c'était avec les éleveurs. Enfin, ils ont décidé de qu'il y avait une date butoir de fermeture d'abattoir. Et en tant que protestation, ils ont décidé la veille de cette date de faire entrer les animaux, sachant très bien qu'ils ne pourraient pas traiter. Et l'abattoir a été fermé le lendemain avec les animaux dedans. Donc, ils sont restés là plusieurs jours sans alimentation, sans eau, etc. Et il a fallu l'intervention de l'association notamment locale sur Clermont qui s'appelle Lapin, et je crois la fondation Louis Barbeau aussi pour essayer de faire intervenir, de faire ouvrir les portes de l'abattoir et de sortir les animaux, etc. Et il y a une action qui est tentée en ce moment sur, je ne sais pas quelle loi ils ont fait, c'est un dossier qui est en cours. Bah, j'essaierai de suivre ça et puis de. Qui est en relation un peu avec la PA qui est une association, c'est là que j'aimerais avoir des éclaircissements d'utilité publique, de savoir qu'est-ce que ça confère d'être d'utilité publique sur un point de vue juridique, sur le fait de porter en justice. Parce que a priori, j'ai l'impression que est-ce que c'est juste pour recevoir des legs ou est-ce que ça a une autre importance? Et comment ce statut, il a l'air important ce statut. Et je me souviens, c'est un peu vague, mais j'avais vu sur un guide des associations que pour obtenir les qualités publiques, une sorte de commission, mais des critères bien précis. Je ne sais pas s'il y a un temps d'existence, un certain flux, etc. C'est assez compliqué d'avoir ce statut-là.
J'ai fait la bêtise de venir sans code, hein, mais je suis à peu près sûre que n'importe quelle association. Déclaré ou non d'utilité publique peut porter plainte à la consultante par civil devant le juge d'instruction ou faire une citation directe devant le tribunal avec cette réserve qu'elle a été déclarée depuis 5 ans mais je ne peux pas revérifier. J'ai appelé un collègue juste avant, il me l'a confirmé lui aussi, hein, des juges d'instruction, donc il a vérifié lui aussi, il a déjà eu affaire à ce genre de cas de figure. À 99%, je dirais que ça ne change rien dans ce cas. Mais il faut quand même que je vérifie. Je pense que l'intérêt est surtout là, oui. Ouais. Mais sinon, on peut faire une action sans être déclaré d'utilité publique.
Déclaré, je crois.
Ça veut, oui,
il faut être déclaré.
Oui.
Depuis par association.
Non.
Pour revenir sur l'idée d'un son nom, il y en a une sur le fait de tuer inutilement, et l'autre qui est sur les mauvais traitements, qui sont basés sur les animaux domestiques. Donc, celle qui est tuée inutilement ou sans nécessité, elle me paraît qu'on ne puisse absolument rien en faire, parce que nous, le nécessité, on l'entend dans un sens qui doit être un peu délirant pour les autres. Pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire que sans nécessité, on pense tout de suite sans nécessité biologique ou je sais pas quoi, alors que la nécessité économique, alors dès qu'il y a un marchandage et qu'il y a vente de produits, etc., c'est une nécessité pour les personnes. Enfin, je pense pas que le mot nécessité soit défini, ailleurs, il est laissé à l'appréciation. Parce que nécessité économique, voilà, on est coincé dès le départ. Voilà, il y a des gens qui vivent du foie gras. Donc cette loi, on peut pas l'attaquer. Pas, le foie gras, on ne peut pas l'attaquer par cette loi, mais par l'autre. Oui. Par l'autre, sur le mauvais traitement.
Voilà. Et là, c'est encore plus intéressant parce que dès lors que c'est un éleveur qui se rend coupable de cette contravention de quatrième classe au départ, ça devient un délit. Et puni de 6 mois d'emprisonnement et 5 ans de prison.
Est-ce que ça peut être aussi une source d'argent. Je pense à ça.
Tu peux réclamer les dommages intérêts qui sont à l'appréciation du tribunal.
Parce que si ça marche une fois, c'est extra, quoi. En tout cas, à l'appel, c'est quand même une action. Enfin, c'est une importance. C'est vraiment quelque chose à tenter, je pense, par rapport à ça. Non seulement pour le côté politique, le côté. Plein de choses qui sont intéressantes sur cette deuxième.
Le problème concret, là, c'est la réunion des preuves. Hein. Mais peut-être que tu serais mieux armé que moi pour ça, pour savoir de quelle source on peut disposer, de quelle information sur la façon dont ces éleveurs de doigts s'y prennent, quel procédé ils utilisent. J'imagine. Ouais.
Pas particulièrement.
Non, parce que j'ai vu que
tu avais
des revues.
D'accord. Oui, je ne suis pas abonné à Flagra Magazine.
Non, mais est-ce que ça existe déjà?
Je ne sais pas. Hein, je ne
connais pas du tout. Ils ne cachent pas leurs moyens. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que l'alimentation ne répond pas à leurs besoins. Je pense qu'ils ne vont pas vraiment discuter.
Vous pouvez qu'il y a mauvais traitement en cruauté, simplement dire que c'est une cirrhose. Est-ce que ça ne suffit pas pour dire que c'est un mauvais traitement et qui est provoqué par l'alimentation? Je ne pense pas que les preuves soient si compliquées que ça.
Il ne suffit pas de le dire, quoi. Parce que les verres vont dire, mais si, elles sont très bien, mais soit.
Oui, il faut qu'il y ait des vétérinaires qui disent effectivement que c'est une maladie provoquée par l'alimentation.
Oui, mais j'imagine mal concrètement un vétérinaire ne pourra pas. Enfin, je ne sais pas comment s'y prendre, vraiment. On ne va pas pouvoir y aller avec un huissier pour faire constater. Oui, mais si l'exploitant refuse d'ouvrir ses portes.
De manière générale, c'est-à-dire l'une ou l'autre, ça relève. Oui.
Mais sans renverser en quelque sorte les charges de la preuve. Ou alors le faire devant un juge d'instruction qui se chargera de faire l'enquête.
Il y a des sous-fifres qui posent pour lui ou c'est lui qui se déplace?
C'est les gens là.
On ne peut pas demander la désignation d'un expert par le tribunal et puis l'expert par voir.
Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert. Hein.
Pas d'un expert, d'un expert vétérinaire, en fait. Sous prétexte que ce soit un expert, c'est un vétérinaire.
Une personne qui est déchirée. Et je pense à autre chose, là, peut-être que Florence en saura un peu plus. On m'a dit à l'époque où j'étais en Corse qu'il n'existait pas d'abattoir là-bas. Toujours le cas, hein. Donc chacun fait ce qu'il veut, donc c'est un
côté mobile qui se déplace plus ou moins, mais enfin c'est vraiment un petit peu laissé, oui c'est très artisanal.
Là aussi je suis pas sûre que ce soit tout à fait réduit. J'ai peur que ça se fasse.
Les obligés à construire un abattoir.
Ça aboutit à ça, c'est vrai.
Quoi que là, si c'est une unité mobile qui se déplace, on n'aurait pas un micro. C'est déjà
ça. Non, mais enfin, elle ne se déplace pas partout. Quoi. C'est...
Yves.
Oui, mais c'était la fameuse loi qui dit qu'il faut respecter les besoins physiologiques. Qui dit qu'il ne faut pas priver de nourriture, etc. Mais elle est tout autant applicable au stade de contention des veaux. Là, tu disais que la loi disait qu'il fallait qu'elle fasse 1,1 fois la taille du veau. Je dirais que ça tombe. C'est une loi qui tombe sous le coup de la loi.
Ah, mais c'est totalement incohérent, là, je suis d'accord. Hein.
Mais cette loi-là, elle peut être utilisée pour plein de trucs. Les poissons, les fusionner pendant des jours ou des semaines avant de les tuer. Il y a plein de poissons d'élevage.
Ah ouais, sauf que tous ces textes dérogatoires, on peut considérer qu'ils permettent de passer outre. Mais ça ne concerne pas ni les poulets de chair, entre guillemets, ni les autres volailles, ni les bovins adultes, ni les poissons. Hein. qui eux relèvent du droit commun.
Qui eux relèvent du droit commun.
Donc c'est arrêté.
Bon, comme je suis sortie à un moment, je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas parlé de ça, mais je n'ai pas compris à un moment. Tu parlais d'un article qui sanctionnait même les comportements qui affligent même involontairement, c'est ça? Et c'est quelle référence à ce texte-là? Enfin bon, c'est pas urgent que je l'ai maintenant, ce qui m'intéresse c'est d'avoir une trace écrite de tout ça par la suite, quoi.
L'article R653-1 du code pénal. R653-1. C'est une contravention de troisième classe, hein, dont 3 000 francs d'amende maximale. C'est sur le... Enfin, le même texte existe pour les humains, hein, sauf qu'il est un peu plus réprimé.
C'est pas celui-là dont tu parlais à l'instant.
Ah non, là c'est involontaire. Ça c'est quand c'est involontaire. Oui. Par exemple, le fait d'écraser un animal sur le bord d'une route sans le faire exprès, oui, si on arrive à prouver qu'il y a eu une faute d'inattention, d'imprudence, négligence, voilà. C'est le, enfin, pour le transposer à ce qui se passe avec des victimes humaines. C'est le piéton qui se fait renverser quand il fallait sur les clous. Alors ça, je crois que ça a été introduit par le nouveau code pénal en 94. Mais sous réserve, donc.
Parce qu'il y
avait
certainement des choses à en tirer. Et je me souviens plus de ce que tu as dit, ça donc c'est limité à une catégorie. C'est l'animal domestique ou c'est... Parce que je crois que quand on parle d'animal domestique, on entend de...
C'est animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
Mais donc, tu disais que sur ce fondement-là, il n'y a quasiment aucune chance d'être entendu. Enfin, moi, je pense à un exemple... Enfin, je ne sais pas si c'est la peine de rentrer dans les détails. Il y avait une vache pas loin de chez moi qui avait un sabot cassé. On l'a laissé là éternellement. Elle avait un veau dans le ventre. Ça a duré un temps fou sans que le propriétaire fasse jamais rien. Est-ce qu'on aurait pu utiliser ça? Est-ce que ça avait une chance d'aboutir ou est-ce que de toute façon ça aurait été classé rapidement?
Parce que là, c'est pas un petit sur une éducation non réprimée. À condition de faire déplacer les gendarmes pour qu'ils le constatent. Ça, c'est un procès verbal et là, c'est poursuivi normalement.
Et là, tu vas passer à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait souvent par les associations ou finalement.
Si. Tu lis le truc de la Fondation Brigitte Ardot, c'est pas de ma chérie.
Pourquoi est-ce que quelqu'un ici a déjà lancé une action comme ça ou jamais? Parce qu'on a besoin d'une association en fait pour faire.
Ah si.
Moi j'en ai
si. Si, parce que je veux dire, moi j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas d'intérêt à agir, je suppose.
Non, mais rien ne t'empêche d'aller à la gendarmerie et à condition de tomber sur un gendarme un peu sensible, il va le faire. Hein. Il n'y a pas de raison. Ça se fait régulièrement. Hein. Je me souviens qu'au moment de l'Aïd el-Kébir, ça arrive pas mal. J'avais vu en tant que juge d'instance. Hein, des abattages clandestins un peu n'importe où. Souvent, c'est des voisins qui le dénoncent et des gendarmes viennent constater.
Je
ne
sais pas quand la société a parlé de ça, mais une fois de faire ça, ça avait au moins tellement impressionné les utilisateurs. Ils avaient stoppé leur truc. C'est un truc viable, mais c'est aussi.
C'est comme ça que ça démarre, hein, bien souvent. La SPA locale, les gens vont dénoncer à la SPA qui font la démarche. Le problème qui se pose concrètement, en général, c'est de savoir ce qu'on fait des animaux après, quoi. parce que souvent, l'intérêt, c'est de les confisquer, mais il n'y a rien pour les accueillir. Ça se passe régulièrement. J'ai vu pour des chevaux.
Et sinon, donc, cet article, c'est celui où tu donnes le nom du monde, hein?
Non, c'est bon.
C'est où exactement ça?
C'est... Ouais.
Non, mais pas moi, papa, j'aime bien la référence, tu vois.
Causer la mort sans nécessité, c'est R655-1. Et pour les mauvais traitements, c'est R654-1. Et l'article 276-1 du Code rural augmente les sanctions quand il s'agit d'une personne exploitant un établissement de vente, toilettage, transit, garde, éducation, dressage ou présentation publique d'animaux de compagnie. Idem pour fourrière, refuge ou élevage. Donc ça permet de passer dans la catégorie délit et ça permet aussi de poursuivre la personne morale. Et puis pour les actes de cruauté, c'est 521.1 du code pénal. 521.1. Et ça concerne également l'abandon. L'abandon d'un animal domestique est un délit. Non, je crois que le cas des blessures involontaires ou de la mort accidentelle, ce serait le cas de, je sais pas, quelqu'un qui se promène dans la rue avec son chien en laisse et un automobiliste fait un écart, volontaire ou non, mais comme l'aspect volontaire risque d'être discuté, au moins on peut se rattraper avec ça.
J'ai quelque chose qui vient sur mon maltraitement, c'est que cette mort au départ elle est faite pour un chien.
Domestique ou apprivoisé?
Ah non, mais pas dans l'esprit.
Mais on peut l'étendre pour les animaux d'élevage.
Hein.
Mais au départ, oui.
Donc, au départ, je pense qu'elle était motivée pour ça. Mais en fait, bon, c'est pas grave en fait. Mais ce qui peut être dur à trouver, c'est la victime en fait, l'animal. Parce que autant un chien, un chat, on peut y avoir un procès verbal. De toute façon, la question des foie gras, l'animal, il n'y a pas d'identité, c'est-à-dire le chien il peut être inscrit au registre canin, etc. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a comme existence? Qu'est-ce qu'on peut avoir? La victime, on la retrouve, si on porte plainte donc, par rapport à cette loi, il y a un animal dedans. Donc cet animal, il faut qu'il soit désigné. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à le désigner? Je veux dire, confisquer son foie, est-ce que ça le foie de l'animal à la fin, c'est voilà, il y a un foie ici, donc ça a bien appartenu à moi, à l'animal. Est-ce que ça ne peut pas poser de difficultés sur l'inexistence en fait, de moi, de la victime en fait. C'est une difficulté sur le problème.
Oui, dès lors qu'elle a été abattue après les procédures.
Je ne sais pas, ou alors il faut la confisquer juste avant qu'elle soit abattue. Et là, il y a peut-être un problème, non?
Ouais, c'est vrai que. Bah, non, parce qu'on peut considérer que. À un moment donné, au moment où le gendarme va faire son procès-verbal, il y a 200 oies qui sont concernées. Effectivement, elles auront été abattues entre le moment du constat et le procès, mais l'infraction, elle existe quand même à un moment donné.
C'est parce que quand tu parles du principe que ce qui va faire preuve, ça va être le foie lui-même. Plus besoin de prouver autre chose. Du moment où le foie est malade, pour toi, l'infraction est constatée. Il me semble que c'est ça que tu veux dire, non?
Bah, tout à l'heure oui, mais là non, c'est pas trouver la victime. Quoi. C'est-à-dire que dans la loi, il y a mauvais traitement sur animal. Sur animal, il faut trouver, il faut qu'il soit désigné, cet animal. Donc ça nécessite une intervention de la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il faut aller trouver des gendarmes, ils disent, là il y a un élevage à foie gras, oui, je les connais bien, c'est une de fait.
Ouais.
Et il faut aller constater qu'il y a 200 oies ici qui sont prévues pour qui sont sur le gavage.
C'est pour ça que la plainte, comme ça, que ce soit au parquet local ou à la gendarmerie, à mon avis, elle n'a aucune chance d'aboutir. La seule solution, c'est de passer soit par la voie d'une citation directe, si on a assez de billes, à soumettre au tribunal, soit par un juge instructeur. Qui va lui-même faire mener l'enquête par les gendarmes. Et là, ils seront obligés.
Attends, pour répéter, j'ai pas.
Soit on va porter plainte à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal. Et on attend que ça se passe, mais une plainte comme ça, on dit. Soit on a assez d'éléments à soumettre à la session du tribunal, il y a une petite question. Soit on va avoir un juge d'instruction, on peut faire des constitutions de civil devant le juge d'instruction, sachant que lui, ensuite, il est chargé de faire mener l'enquête par les services de gendarmerie et les services d'enquête compétents. Mais la simple plainte, elle peut marcher comme ça pour des choses toutes simples, hein. Un animal maltraité dans un champ, ou un chien, c'est souvent des pitbulls ou des rottweilers d'ailleurs qui se font maltraiter. Il y a plein de plaintes qui aboutissent comme ça, hein, tout simplement. Voilà, ouais.
Il y en a aussi plein qui aboutissent pas. Enfin, moi, je sais que mon voisin a empoisonné mon chien. J'ai la gendarmerie, les gendarmes se sont déplacés, sont venus enquêter, et puis il n'y a jamais eu aucune suite. On m'a dit que ça allait être abandonné immédiatement.
Il y avait des plaintes, ils ne sont pas surchargés.
Qu'est-ce qu'il m'a parlé de ça? Non, j'avais pas de preuves, c'est vrai que j'avais pas de preuves. Mais pas à dire, non.
C'était pour ça.
Non, mais ouais. Non, mais je veux dire, ça, je suis convaincue que même si j'avais eu des preuves, ça ne serait pas allé plus loin. Déjà, j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose d'important en faisant que les gendarmes se sont quand même déplacés. Déjà là, c'était inespéré. Tout le monde m'a dit, mais bon, tu as réussi à faire ça, c'est bien. Je suis convaincue que même avec des preuves, ça aurait été...
Oui, ils sont allés interroger le voisin, ils ont mené l'enquête, oui. Bon, après, peut-être qu'effectivement, il n'y avait pas suffisamment de limites de preuves, mais... Alors, j'ai retrouvé un peu par hasard, mais j'ai pas lu en entier, mais il semblerait que cette convention semble présenter un certain intérêt. C'est une convention internationale qui a été faite à Aarhus, je sais pas où c'est, le 25 juin 98, et qui vient d'entrer en application. Elle s'appelle Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Prévoit plein de modalités de participation, et notamment chaque partie, donc chaque État, s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié, et tant que les options sont encore ouvertes, durant la phase d'élaboration par les autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Et alors, on liste tous les domaines d'activité concernés, et on trouve notamment les installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille, 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kg. Et peut-être d'autres textes, je crois que ça concerne aussi la production de lait. Donc pour l'instant, c'est entré en vigueur, hein, depuis le mois d'octobre 2002. Je ne sais pas si concrètement ça s'est déjà mis en place, mais il y a peut-être une ouverture.
Droit d'accès à l'information.
Oui, alors concrètement, je ne sais pas par comment ça va se matérialiser, mais la tendance serait d'élargir la participation des citoyens, participation directe à l'élaboration des textes qui peuvent avoir une répercussion sur l'environnement, et ça comprend notamment les élevages intensifs. Alors ça élargit l'accès aux informations, avec possibilité de recours devant un tribunal si on n'obtient pas l'information qu'on demande sur notamment les certains types d'élevage. Hein. Donc ça permettrait d'élargir, de diffuser de l'information et de participer davantage peut-être à la réglementation. Mais je pense qu'ils n'ont pas encore mis en place tout le mécanisme. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres textes depuis.
C'est une convention européenne, c'est ça, ou
Je ne sais pas. C'est Aarhus, A-2-A-R-H-U-S. Je ne sais pas où c'est.
C'est 98.
Ça date du 25 juin 98.
Je l'ai là. Moi, je voulais... demander, là, au tout début de ton intervention, tu as parlé là, de la théorie du sujet, que ça se basait sur la volonté, enfin sur le fait de posséder une volonté, le fait de pouvoir bénéficier de droits. puis bon, progressivement, il y a eu des... Ça avait été un petit peu changé, cette idée-là, parce qu'on avait inclus des handicapés ou des enfants dans l'histoire. Est-ce qu'il y a des textes qui font un petit peu, qui détaillent un petit peu à la fois ces idées-là, les arguments qui ont été exposés, puis leur évolution?
J'ai pas de référence récente à donner, d'autant plus que je crois que la littérature est essentiellement anglaise ou américaine sur le sujet. J'avais trouvé, mais j'avais fait la recherche il y a longtemps, c'était à l'époque où je m'étais intéressée un peu mon mémoire. J'ai pas trop réfléchi au sujet depuis, donc ma bibliographie, c'est celle que j'avais à l'époque. Mais il y avait quand même pas grand chose. Hein. J'avais réussi à trouver un peu par hasard. Des articles à gauche à droite. Mais j'ai déjà regardé des listes de bibliographies hein, sur le net. Je sais qu'en Angleterre, en France, j'en ai pas vu. Je crois pas qu'un juriste se soit vraiment penché sur la question. Ou en tout cas, pas sur cet aspect-là. Mais je suis d'accord que ce serait intéressant à expliquer. Même si ça reste très abstrait. En tout cas, on a un juriste qui s'est vraiment illustré, c'est De Mogue, au début du XXe siècle là-dessus. C'est lui qui a proposé d'étendre, dès lors qu'on s'orientait vers cette théorie du sujet intérêt, de l'étendre aux animaux.
Comment ça s'écrit ?
De Mogue,
oui.
D-E-M-O-G-U-E.
C'est quand ça devient bien maintenant ?
Début 20e.
Et c'est un français ? Il le proposait en France, toi ?
Non. Il y a eu un Allemand avant. Il s'est inspiré de... La théorie du sujet intérêt, c'est Gehring, c'est un Allemand. Alors lui, je ne sais pas exactement quel terme. Ça s'écrit I-H-E-R-I-N-G. Et ensuite, d'autres l'ont utilisé. Et il y a un Anglais aussi, je crois, Becker, qui l'a utilisé. Mais lui, il voulait l'étendre aussi à tout ce qui est... Enfin, là, je ne comprenais pas bien son raisonnement, mais il voulait l'étendre aux œuvres d'art, à des objets, pour des raisons qui... un peu obscur. Mais j'avais l'intention de faire la recherche, là, voir réactualiser tout ça et me plonger un peu dans tout ça pour en parler si tu veux.
C'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a une loi qui est passée du genre deux ans après le projet Grand Singe et qui interdit l'expérimentation animale sur les grands singes, sauf quand c'est dans leur bénéfice, mais leur bénéfice étant entendu pas en tant que bénéfice individuel, mais bénéfice collectif de l'espèce. Enfin, je pense bénéfice d'autres individus de l'espèce, c'est pas simplement bénéfice de l'espèce, encore que ça j'en suis pas sûr. Mais donc on peut pas dire que ça a implémenté exactement
le projet Grand Singe dans sa totalité, quoi. Et ça donnait déjà... Ah bon, ça c'était la question que je voulais poser aussi, c'est dans quelle mesure est-ce que une loi qui interdit de faire ceci ou cela à un animal implique que cette loi reconnaît que l'animal a des droits à, ou a une personnalité ou à... Enfin, parce qu'il peut très bien y avoir des lois qui interdisent de... par exemple, je crois qu'il y a des lois qui interdisent spécifiquement la dégradation de véhicules, plus que la dégradation de n'importe quelle propriété. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ça existe, mais il se trouve que les véhicules sont spécialement protégés. Non ?
Non, c'est général, hein, les dégradations. Et une circonstance aggravante, ça ne concerne pas les véhicules, c'est les biens d'utilité publique.
Oui. Bon, mais je voulais dire, si une loi interdit quelque chose, de faire quelque chose sur une pierre, par exemple, il y a sûrement des lois qui peuvent être interprétées comme ça, quoi, comme interdisant de faire quelque chose. Bon, dans quelle mesure ça implique que ça implique pas que la pierre a des droits, quoi. Une loi qui interdit de faire tel ou tel geste sur tel ou tel animal, dans quelle mesure on peut dire que ça implique que l'animal ait des droits ?
Je pense pas qu'on puisse, non ?
Y compris donc le truc en Nouvelle-Zélande. Enfin, ça me paraissait pas clair que. Ça paraissait clair peut-être que dans de façon effective, ça revenait à accepter les interdictions du projet demandé par le projet Grand Singe, mais sans en faire des droits des singes.
Si sur la dégradation, c'est que ça porte préjudice à quelqu'un. Là sur l'animal, ça porte pas préjudice à l'animal, puisque c'est lui-même qui a attaqué. Donc, c'est vraiment l'animal en soi qui est attaqué dans la voie.
Non, on peut considérer, je ne sais pas, une atteinte portée à un bien collectif, je ne sais pas, une œuvre d'art, un site. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. On peut considérer que les animaux sont une propriété la collectivité, voilà, une espèce de patrimoine. Et qu'on les protège en tant que tels. Mais je sais pas si. Cette réglementation est tellement incohérente que je suis pas sûre qu'on puisse en tirer. On peut vraiment en tirer les conclusions qui nous intéressent au cas par cas.
David, qu'est-ce que tu avais en tête derrière ça, si ça avait été le cas, que ça implique qu'il y a des droits ?
Non, mais c'est des droits ou une question de statut. C'est-à-dire que. Nadia, je disais à un moment que le statut. Les animaux n'étaient pas très clairs. Alors, effectivement, si dans un texte, ça dit « les animaux ne sont pas dans la catégorie des biens meubles », bon, ben, le texte il définit effectivement le statut, ou il définit, au moins négativement, il parle du statut. Mais un texte qui édicte simplement quelque chose à propos de ce qu'on peut faire par rapport à l'animal, dans quelle mesure est-ce que ça implique un changement de statut ? Moi, ça me paraît pas clair.
Non, c'est il y a des textes qui répriment la pollution.
Oui, ça donne pas un statut juridique à l'air.
Non.
Quoi.
Enfin, non.
Il n'y a pas que l'air a le droit de ne pas être pollué.
Tout à fait. Quant au, c'est un peu plus. Plus compliqué que ça encore. Le code sujet des meubles et des immeubles, là, c'est. On ne peut pas vraiment dire que l'animal n'est pas un meuble, mais c'est une catégorie un petit peu spéciale de meuble. Enfin, c'est pas si simple que ça. Bon, on en tient compte pour montrer que c'est pas un objet comme les autres, mais c'est tout, quoi.
Donc, on le nomme comme une catégorie à part,
voilà, quand même,
en étant quand même un meuble.
Ouais. C'est un meuble, mais c'est pas un objet.
Quoi. Il reste une propriété, quoi.
Comme un esclave, un deuxième siècle. C'est bien, ça avait un statut meuble, je crois. Pas tout à fait cité comme un objet, on disait divers biens meubles, dont les esclaves et les objets, machin, etc.
Ah, mais ils étaient peut-être dans le même article. les meubles par destination, oui. Peut-être. Oui. Je verrais bien comme meubles par destination.
Donc, il y avait une ambiguïté entre. Ils étaient partiellement immeubles et partiellement meubles,
ouais,
en fait.
Ça.
Et la loi était floue, en fait, au sujet, par exemple.
Entre les abeilles et les semences. Pénaliste. Pardon ?
Pénaliste. Distinction qui m'échappe un peu. Et Jussieu, c'était du temps de tu étais étudiant ?
Non, c'était l'année dernière.
Le papier qui a fait passer sur...
C'était l'année dernière. Ça remonte pas à très longtemps.
Mais c'était dans un rôle de...
Ah, oh, comme ça.
C'est le... Non.
Ah non, non, pas du tout. Non, mais je me disais qu'en faisant avancer les choses sur Jussieu, il y a peut-être moyen ensuite de l'étendre.
Mais tu l'avais pas, tu l'avais fait toute seule, tu l'avais pas fait avec le Pro Anima ou la LFCD ?
Avec la Ligue française des droits de l'animal. Étant entendu que Jean-Claude Mouette, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'il était prêt à appuyer ensuite au niveau de...
Comment dire, c'est la Ligue ?
Ligue française des droits de l'animal.
Et la personne n'était pas qui est intéressée par...
Bah c'est le président en fait, le
Jean-Claude Mouette. Oui, je ne connais pas Jean-Claude.
Mouette, N-O-U-T-E. E-T-E, pardon.
Oui, Mouette. Je sais qu'il y a un livre qui est paru sur les droits de l'animal il y a 5-6 ans. Et justement, il y a une contribution de Mouette. Je n'ai jamais eu le courage de le lire. C'est consacré qu'au droit de l'animal. Je ne connais pas ce livre. Non. Dans la collection Panorama.
Attends, si, je crois que je... Si, si, je, j'ai dû parcourir ça. Mais c'est pas juridique, hein. C'est des discussions bah, éthiques, philosophiques, comme ça. Hein.
Mais, bah, mais en tout cas, la Lama, elle me l'avait demandé parce qu'elle s'appuyait dessus.
Si, si, je crois que je l'ai. Et il devait y avoir un signe d'attention. C'est un paysage sur la couverture.
Une girafe aussi. En tout cas, je t'ai pas passé. Si je t'ai passé la première, mais tu l'as pas compris sur le foyer en Israël, mais tu vas attaquer au niveau juridique pour empêcher. C'est le premier ou deuxième producteur de foie.
Deuxième.
Et donc là, ils sont à
hein?
La Pologne l'a interdit.
Ah bon?
Ah oui, la Pologne l'a interdit parce que c'est mauvais traitement à l'animal. Donc j'avais envoyé à Gisela, elle était très intéressée.
Mais là, c'est tellement énorme le foie gras que. Même au niveau communautaire, je crois qu'on ne peut pas le mettre en tête. C'est pas
mal. En tout cas, en Israël, c'était le député qui a déposé cette motion d'interdiction, je ne sais pas comment dire, à la Knesset. Il s'appuyait sur le fait que ça n'était pas halakhique. Ça ne correspondait pas à la loi juive de faire souffrir un animal. Est-ce qu'un élevage industriel est à l'arrêt, quoi. Ça peut après être le fil qui peut tirer la... Est-ce qu'après abattre un animal, c'est...
Là, tu connais là, les associations qui se battent sur cette histoire 3-3.
Je pense que la Ligue pourrait être intéressée.
Tu seras là quand je serai du colo
ou oui, mais la Gira peut-être aussi. Enfin, je connais pas, je me suis contentée de verser une cotisation pendant quelques temps, mais je ne l'ai jamais.
La Gira, il aurait peut-être parce qu'il y a une plateforme. Sur ce
point. Ouais, et quand même, il faut se regrouper. Charolois, peut-être.
La Barousse.
Il est concerné, il est. Il est en train de dormir, non ?
Charolois. Il est plutôt sur la chasse, sur le.
Oui, mais enfin, il est où ? Il est à.
Il est dans le.
Il est dans la région, là.
Nord de Nouvelle-Orléans.
si plusieurs associations sont soutenues.
Je sais que j'espère être en contact avec les associations israéliennes aussi par rapport à ce problème. Je ne sais pas, peut-être travailler en collaboration.
Diffuser dans un premier temps l'idée et voir qui répond. Ensuite,
ouais.
Faut choisir la cible.
Ouais. Comme ça se fait pour les trucs, les plateformes. Là, je pense qu'on ne voit pas trop quelle association de défense animale pourrait s'opposer à ça. C'est vraiment hyper consensuel. Mmh. Ça pourrait rassembler vraiment beaucoup de monde.
Du compte rendu des actes, je sais pas, enfin, savoir s'il y a des gens qui sont prêts à les faire.
Moi je peux me faire,
c'est la partie de ce matin,
je m'en chargerai. Donc on ne peut pas avoir trop de bras pour les faire. Est-ce que tout le monde est un petit peu au courant